Solène Chalvon-Fioretti, bonjour.
Bonjour.
La femme qui s'est éveillée est un récit, celui de votre arrivée en tant que jeune journaliste en Afghanistan en 2011, de votre découverte et de votre passion pour ce pays et de votre amitié avec une jeune Afghane, Laïlé. On va revenir plus tard sur les circonstances de votre rencontre, mais j'aimerais que l'on s'attarde tout d'abord sur cette jeune Afghane. Elle a, comme vous la décrivez, un caractère bien affirmé, une grande intelligence, une fierté afghane revendiquée. Elle admet qu'elle est d'une certaine façon condamnée à vivre dans une société traditionnelle, celle qu'est l'Afghanistan, mais en même temps, elle dit qu'elle refuse d'endosser le rôle de victime que, selon elle, les féministes blanches veulent lui imposer. Comment expliquez-vous ce qui pourrait paraître pour nous comme une contradiction ?
Je pense que cela s'explique par le fait notamment que les Afghanes, comme les Afghans, puisque les femmes, je pense, sont aussi perméables à la culture que les hommes, évidemment, les Afghanes, elles ont beaucoup d'honneur. L'honneur, c'est un gros mot chez nous. C'est pas un gros mot en Afghanistan. L'honneur, c'est l'honneur d'être respecté, justement. C'est l'honneur d'étudier. C'est l'honneur de travailler. Et donc, Laïla avait beaucoup d'honneur. Donc il y a d'abord ça, je crois, qui compte. Et ensuite, il faut quand même comprendre, si moi je vous demande de fermer les yeux et de penser à la femme afghane, vous allez voir quoi ? Vous allez voir une femme en burqa. Et en fait, cette image-là, c'est une image qui peut être très humiliante pour les Afghanes, parce qu'en fait, elle continue de les invisibiliser. D'une certaine manière, on les voyait jamais, en fait, ces Afghanes, puisqu'elles étaient toujours sous la burqa. Donc on a quand même beaucoup, je crois, préjugé de ce qu'elles avaient à dire, étant entendu que si on les voyait pas, finalement, est-ce qu'il fallait les entendre, vous voyez ? Mmh. Et ce logo, victimaire, en fait, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle l'appelait, de la burqa. Elle supportait pas la façon dont il était instrumentalisé par l'Occident.
Et si on lui parlait d'émancipation de la femme pendant la présence de la coalition internationale, c'est quelque chose qui l'insupportait également.
C'est-à-dire que d'abord, Laïlé, elle avait quand même un très mauvais caractère. Et ensuite, elle était ambiguë sur cette question, puisque en réalité, elle-même, en fait, était le fruit de cette coalition internationale. Elle avait été formée dans une école gratuite, turque, de la secte Gulen. Et ensuite, elle avait pu bénéficier elle-même de certains programmes universitaires qui étaient financés par la coalition internationale. Donc il y a évidemment une contradiction. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle estimait que, en fait, tout ça n'avait été qu'une vaste opération de propagande, en réalité, où la femme afghane avait servi d'alibi pour justifier l'intervention militaire. Parce que c'est vrai que, quand on regarde qu'est-ce qui se passe les 10 dernières années de la coalition internationale en Afghanistan, mais en fait, ces femmes afghanes-là, il y a de moins en moins de programmes de ce type. Elles sont de moins en moins invitées, et le parachèvement quand même de cette mascarade, c'est que à Doha, au Qatar, quand on négocie le futur de l'Afghanistan,
Quand les Américains négocient
avec les talibans directement, il y a 4 femmes qui sont là pour porter la voix des femmes afghanes, et franchement, elles vont avoir une demi-heure de tour de parole. Donc c'est vrai que c'était quand même d'un cynisme assez fou, et dont elle avait parfaitement conscience.
Alors justement, à propos des talibans, vous irez la voir dans sa famille à Kandahar et elle vous dit que la famille de son père a davantage souffert de petits chefs de guerre que des talibans. Mais si vous lui dites que vous êtes étonné par cette remarque, elle vous dit « Ne te méprends pas, ce sont mes ennemis, ils sont faits du même bois que nos vieilles chèvres, tous ceux qui ne veulent pas le changement.
» Oui, c'est une phrase que je ne peux pas oublier. En fait, elle avait, à l'égard des talibans, elle avait une trouille bleue de les voir en possession de ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire être tout puissant. Elle disait, en fait, nous, on est habitués à gérer ces mecs-là. D'ailleurs, les talibans ne sont pas si différents que notre référent quotidien dans n'importe quel village afghan, qui est le mollah du village. Vous avez de la chance si, en 2021, le mollah du village, il est éduqué, s'il sait lire, mais il y a des quantités de mollahs dans le sud de l'Afghanistan, principalement, qui ne savaient pas lire. Et donc, elle disait, entre ce mollah en territoire pachtoun, qui est donc l'ethnie la plus conservatrice en Afghanistan, et un taliban, je vois pas vraiment, si vous voulez, la distance idéologique, elle est pas extrême. Mais elle disait bien, donc moi j'ai pas peur des talibans, mais en revanche il faut jamais qu'ils soient tout seuls. Il faut qu'ils partagent le pouvoir. De toute façon c'est inéluctable, ils arrivent, mais si on partage, il y aura un moyen de trouver des points d'équilibre. Et bon, elle était morte avant qu'ils arrivent, mais je pense qu'elle en aurait été pétrifiée, quoi.
Alors justement, revenons à votre rencontre avec Laïlé. Elle se passe à l'université de Kaboul. Laïlé a créé un réseau clandestin qui distribue des pilules abortives et contraceptives pour épargner à des étudiantes afghanes mariées des grossesses non désirées, parce que dans ce cas-là, elles devraient arrêter leurs études. C'était ça aussi son combat.
Moi, ce que j'ai beaucoup appris à travers ce mouvement, donc qu'elle baptisait pour rire la pile force, c'est-à-dire l'armée de la pilule en quelque sorte, ce que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire que nous on pense avortement, voilà, on voit ça au travers d'un prisme qui, je pense, féministe très occidental quand même, qui est lié voilà au fait de notre corps nous appartient, la libération sexuelle, etc. Là il est pas du tout. Ces pilules, elles étaient prévues pour des femmes qui étaient des femmes mariées, des femmes qui, en fait, parce qu'en Afghanistan vous pouvez pas poursuivre vos études, il y a pas de système pour garder vos enfants, puis de toute façon traditionnellement ça ne se fait pas. Si vous avez des enfants en bas âge, vous arrêtez de travailler, vous arrêtez vos études. Donc c'était vraiment en direction des femmes mariées.
D'une certaine façon, elle intégrait son combat dans la tradition.
Tout à fait, ouais. À l'intérieur d'une culture qu'elle revendiquait, dont elle était fière, et encore une fois, dont elle acceptait assez peu ce qu'elle appelait les incursions, en tout cas les violences du féminisme occidental qui auraient pu... voilà, parce que moi, évidemment, je l'avais déjà demandé, mais en fait, pourquoi est-ce que ces pilules, tu les proposes pas à davantage de gens, et tout de suite, voilà, elle s'énervait, elle était d'ailleurs très soucieuse du fait que les filles de la fac qui distribuent les pilules gardent une tenue modeste. Elle était très en souci, si vous voulez, de pas, par-dessus le marché, se mettre à dos des hommes qui seraient trop islamistes, trop radicalisés. Donc, pour elle, il y avait une voie féministe à définir et à construire qui soit très enracinée dans la culture afghane.
Et c'est ce combat qui lui coûtera la vie. Vous avez aussi rencontré sa tante, Torpekaï. Donc ça veut dire en français, frange noire. C'est une autre femme qui attire notre attention. Elle aide, alors plutôt on est en province, dans la campagne, elle aide les paysannes à accoucher. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des talibans, est-ce que cette personne ne peut poursuivre son œuvre?
Oui, Torpekaï, elle peut travailler parce que les femmes qui travaillent dans le soin, c'est d'ailleurs vraiment, je pense, le point sur lequel les talibans ont indéniablement changé. Torpekaï peut travailler parce qu'elle travaille dans les métiers du soin. Et elle peut travailler parce que le centre communautaire dans lequel elle bosse est un centre qui est exclusivement réservé aux femmes. Donc il y a effectivement des talibans à l'entrée. Ils filtrent bien, ils vérifient bien que les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Mais enfin bon, à l'intérieur, voilà, les femmes travaillent. Ce qui est terrible, c'est plutôt que... en fait, alors que le pays n'a jamais été aussi sûr, alors que des paysannes qui avant ne pouvaient pas du tout faire cette route pour aller la voir à cause des combats... En fait, maintenant, elles viennent, mais il n'y a plus de gants, il n'y a plus de médicaments. Donc, en fait, Torpekaï est quand même là dans une très grande détresse.
Mais cette détresse, c'est parce qu'il n'y a plus de financement international?
Parce qu'il n'y a plus de financement de la communauté internationale, bien que ce soit en train de changer, puisque vous avez sans doute remarqué qu'il y a eu une grande conférence internationale qui s'est tenue sous l'égide de l'ONU, a voté 2 milliards pour l'Afghanistan. Et donc, on peut espérer que le secteur de la santé soit le premier à recevoir une partie de ces fonds.
Alors après le secteur de la santé, le secteur de l'éducation depuis la prise de Kaboul le 15 août, les universités, les collèges et les lycées avaient fermé. 6 universités ont rouvert en février. Les collèges et les lycées devaient rouvrir le 23 mars. On a tous vu ces adolescentes, ces jeunes filles se rendre en classe pour apprendre qu'elles devaient rentrer chez elles. On les a vues pour certaines en pleurs, d'autres manifester contre cette nouvelle fermeture des écoles. Comment est-ce que vous expliquez cette journée du 23 mars, retournement soudain?
D'abord, c'est très difficile à expliquer puisque c'est complètement irrationnel de faire ça. Vous savez, pour les talibans qui cherchent quand même toujours à valoriser leur image de pater familias, très très attaché aux valeurs traditionnalistes, qui seraient venus protéger comme ça les valeurs de la famille afghane, de voir des gamines en larmes sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de mal à leur image. En fait, ce qu'il s'est passé sans doute, mais on a quand même déjà du mal à avoir des infos qui soient fiables, puisqu'il y a différents discours qui sont donnés. Les talibans sont très très ennuyés, évidemment, eux-mêmes, de ce revirement de situation. Ce qui a dû se passer de façon tout à fait dérisoire, c'est que, alors que les talibans, la ligne dure, n'a pas forcément dû très bien suivre ce qui s'était passé pour les universités, puisqu'ils n'ont pas les étudiantes sous leur nez. Elles sont, comme vous l'avez dit, les facs d'abord sont très peu nombreuses, et surtout, elles sont dans les centres-villes des villes les plus libérales, ou en tout cas des grosses villes. Et ce qui a dû se passer, c'est que les talibans, la ligne dure, surtout dans le sud du pays, a banalement dû voir passer des jeunes filles, des adolescentes sous leur nez, et en fait ils n'ont pas supporté. Et dans un rapport de force qui est très compliqué en ce moment au sein du mouvement taliban, parce que n'oubliez pas que ces gens-là, ça fait 20 ans qu'ils ne se sont pas forcément rencontrés, qu'ils n'ont pas forcément combattu au même endroit, endroit, dans les mêmes régions. Et là, on se retrouve, il y a ceux qui disent « Moi, j'ai perdu tel nombre de kamikazes et moi, tel nombre de combattants, alors que toi, tu étais à Doha, dans les palaces et tu ne faisais rien, etc. » Vous voyez, il y a tout un rééquilibrage qui est en train de s'opérer. Et malheureusement, dans ce rééquilibrage, ce qui apparaît de façon très nette, c'est que la ligne dure, c'est la ligne souveraine. Donc, il y a de bonnes raisons d'être inquiet, bien que moi, je pense personnellement que le problème est plutôt lié au trajet de ces écolières plutôt qu'à l'éducation, puisque plusieurs fatwas, plusieurs chefs religieux se sont déjà prononcés en faveur de l'éducation de ces filles. Et donc, je pense que ce qui pose problème à cette ligne dure, c'est que les filles soient en extérieur, le visage nu. Donc peut-être qu'ils vont leur imposer des burkas, peut-être qu'ils vont leur imposer des niqabs, mais je pense qu'il y a quand même à espérer et que ces filles retourneront à l'école.
Donc vous pensez qu'il y a un terrain de compromis entre les différentes lignes des talibans?
Je veux le croire, oui.
Et donc si ces jeunes filles, ces adolescentes retournent à l'école, étudient, on peut leur souhaiter d'aller à l'université, qu'est-ce qu'elles feront après? On voit déjà dans votre livre qu'il y a un certain nombre de femmes, de jeunes femmes qui ont perdu leur emploi parce que finalement il y a des employeurs, même à Kaboul, qui n'ont pas attendu la prise du pouvoir par les talibans pour licencier leurs salariés femmes.
Oui, tout à fait. C'est encore un des effets pervers de cette après-guerre qui est vraiment une après-guerre très sale pour les femmes puisqu'il y a toutes ces vengeances qui se retournent contre elles. Il y a aussi, comme vous l'avez mentionné, ces chefs d'entreprise ou ces collègues ou ces confrères qui, dans un contexte de concurrence extrêmement féroce puisque cette économie est à l'agonie, ils ont vite fait de dégager les femmes en leur disant que c'est parce qu'ils ont peur des talibans. Vous voyez, je pense que ce que les filles vont faire à la fac, c'est qu'elles vont miser sur les métiers qui sont les métiers qui vont exister pour sûr.
Donc santé,
c'est-à-dire les métiers de la santé et de l'enseignement.
Merci Solène Chalbon-Fioretti.
Merci.
Et merci pour ce récit, La femme qui s'est éveillée, qui est très touchant.
Merci à vous.